le journal de la rédaction depuis Bruxelles pour la caravane des Européennes. Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Et nous sommes effectivement à Bruxelles ce matin pour le journal de 8 heures. C'est aujourd'hui que les listes des candidats aux élections en France doivent être déposées au plus tard. Nous ferons le point dans un instant sur les noms déjà connus. Nous nous pencherons ensuite sur la place de la Belgique dans l'Union Européenne et sur la campagne dans le pays en ce moment. C'est la suite et la fin de notre caravane européenne en direct donc du bureau de Radio France à Bruxelles. Dans ce journal encore, nous reviendrons sur la polémique après l'intrusion de manifestants à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital parisien. Certains élus politiques demandent la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et nous irons ensuite au Venezuela, où un nouvel opposant au pouvoir est pris pour cible par Nicolas Maduro. Il s'est réfugié dans l'ambassade d'Espagne à Caracas. Et puis, reportage en Libye avec notre envoyé spécial. L'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli dure depuis un mois. Les députés du pays ont protesté hier. C'est donc depuis le cœur du quartier européen à Bruxelles que nous diffusons ce matin, à 3 semaines et demie des élections européennes, à 3 semaines et demie aussi du scrutin en France, où les listes des candidats doivent être déposées au ministère de l'Intérieur. Heure limite ce soir, 18h. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Clara.
Nous avons fait le voyage ensemble vers Bruxelles, capitale européenne. Quelles seront, Frédéric, les forces françaises présentes pour ces élections le 26 mai prochain?
Alors, on connaît déjà avec certitude une douzaine de listes, 6 à gauche, Lutte ouvrière, le Parti communiste, Génération, le mouvement de Benoît Hamon, l'alliance entre le Parti Socialiste et Place Publique, ainsi qu'Europe Écologie, les Verts. Deux au centre, la liste En Marche et l'UDI. Et puis les voix de droite seront disputées entre Les Républicains, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Le Rassemblement National sera bien sûr aussi sur les rangs, de même que les Patriotes de Florian Philippot et l'UPR de François Asselineau, tous deux partisans d'une sortie de l'Union Européenne. Et puis, c'est la tradition de ce scrutin européen, des listes plus modestes concourent. Selon nos informations, le Parti Pirate déposera sa candidature cet après-midi. Le parti animaliste affirme aussi qu'il dispose du nombre de candidats nécessaires, à savoir 79, de même que la liste Espéranto qui défend une langue commune pour l'Europe. Rappelons que seules les listes qui rassembleront au moins 5% des suffrages obtiendront des sièges au Parlement européen.
Et puis Frédéric, on a beaucoup évoqué ces dernières semaines la possibilité de listes de gilets jaunes. Qu'en est-il?
Eh bien, il y aura plusieurs listes teintées de jaune, celle menée par le chanteur Francis Lalanne, l'Alliance jaune avec Jérémy Clément, l'une des figures de la mobilisation dans le Loiret, priorité à la justice fiscale et au référendum d'initiative citoyenne. Et puis, d'autres figures des Gilets jaunes se sont greffées à des responsables politiques. Jean-François Barnama, qu'on a beaucoup vu sur les plateaux, a scellé un accord avec Florian Philippot, ex du Front National, à la tête du parti Les Patriotes. Benjamin Cauchy, Gilet jaune de Toulouse, lui aussi habitué des chaînes d'infos continues, figurera sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Et puis, d'autres figures de la contestation, comme Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, se tiennent éloignés des partis politiques par méfiance, tout comme Priscilla Ludowski. Cette dernière a déjà annoncé qu'elle voterait blanc.
Merci beaucoup Frédéric Seyss pour ces précisions, pour ces projections. En ce vendredi matin, les listes seront donc déposées à 18h au plus tard ce soir, place Beauvau. Elles seront ou non validées la semaine prochaine avant d'être publiées au journal officiel. Il y a du monde dans ce bureau à Bruxelles. Votre bureau principal, Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Belgique et nous sommes là à l'occasion de la fin des candidatures en France. Nous venons d'en parler là aussi cette semaine en France Culture, puisque c'est la fin de notre caravane européenne sur France Culture. Après avoir sillonné les autres pays fondateurs de l'Union, nous voilà au cœur des institutions dans ce pays, la Belgique, Angélique, qui occupe une place particulière.
Oui, alors faut déjà s'imaginer où nous sommes, hein, Clara. Ce matin, on est installé donc dans le Centre international de presse, au cœur du quartier européen de Bruxelles, là où bat le cœur de l'Europe. De l'autre côté de la rue, là tout près, il y a le siège de la Commission européenne. À notre droite, le bâtiment qui abrite le Conseil européen, et tout près d'ici, le Parlement. Entre le rond-point Schuman et la rue de la Loi, on croise ici dans la journée des fonctionnaires de plein de pays. Hein. Dans les brasseries, on parle italien, hongrois, estonien, grec. Et s'il est bien un pays qui incarne hein, l'Europe communautaire, c'est cette Belgique dont on parle ce matin. Membre du Benelux, c'est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union. Il a participé pierre par pierre à sa construction, avec, et c'est important de le souligner, un art du compromis qui est souvent salué. Avec ses 3 régions, wallonne, flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Le Royaume, vous le savez, c'est un millefeuille politique compliqué. Alors dans les négociations complexes autour de la table du Conseil, là tout près à quelques centaines de mètres, eh bien la réputation des Belges n'est plus à faire pour trouver bien souvent la bonne formule qui met tout le monde d'accord.
Alors la Belgique se prépare donc à voter le 26 mai, mais pas seulement pour les européennes, Angélique, ce qui fausse un petit peu la campagne.
Oui, car le 26 mai ici, on ne vote pas seulement pour élire 21 députés belges, on vote aussi pour élire des représentants, tenez-vous bien, dans les 5 autres parlements du pays. Hein. Il y a les élections fédérales pour élire donc un parlement national, et dans le cadre cadre des élections régionales qui ont lieu le même jour, on vote pour le Parlement flamand, pour le Wallon, francophone donc, pour le Parlement germanophone et pour celui de la région Bruxelles-Capitale. Trois scrutins donc, 366 listes. 7000 candidats, et ce sont plutôt les enjeux nationaux qui occupent le débat public, car en Belgique, nous n'avons plus vraiment de gouvernement depuis fin décembre. Le libéral Charles Michel, qu'il dirigeait, a vu sa coalition, rappelez-vous, éclater lors de la signature du pacte mondial pour les migrations. Ces ministres nationalistes flamands de la NVA qui étaient opposés ont claqué la porte. Le roi a alors chargé Charles Michel d'expédier les affaires courantes, en attendant quoi ? Eh bien, le triple scrutin de ce mois de mai, la mère de toutes les élections ici, qui a lieu tous les 5 ans.
Et les partis sont donc en campagne en ce moment. Sur quelle thématique, Angélique ?
Eh bien, la campagne tourne beaucoup autour du climat, en raison des marches des collégiens et des lycéens ici, comme je vous le racontais tout à l'heure dans le 7 heures, qui ont largement bousculé la classe politique belge. Les écologistes sont très en forme, pourraient faire de très bons scores selon les sondages. Reste à savoir si le vote écolo sera plus fort au niveau national ou au niveau européen, car ici, comme ailleurs, d'ailleurs, on ne vote pas toujours pour la même couleur politique selon le scrutin, selon le bulletin. Les votes pour les législatives et les régionales sont souvent des votes plus utiles, entre guillemets. Le vote européen est souvent un choix de cœur. Une chose est sûre, la participation est assurée. On annonce plus de 80% de votants. Et pour cause, le vote est obligatoire ici, dans ce pays. Et si l'on ne produit pas une bonne excuse, eh bien on écope d'une amende qui va de 40 à 80 euros.
Voilà donc une excuse pour aller voter. Merci beaucoup Angélique Boin pour ce tableau presque complet de la relation entre la Belgique et l'Europe. Presque complet parce que vous évoquiez l'écologie comme moteur de cette campagne. Citons aussi l'immigration, thème qui a fait tomber le gouvernement belge en décembre dernier, vous en parliez. Eh bien, ce thème résiste en Flandre en 7 ans de campagne électorale. La tendance populiste y est représentée par deux partis qui s'affrontent. Le Vlaams Belang, classé à l'extrême droite, et la NVA, Alliance Néo-Flamande, parti le mieux représenté au Parlement fédéral belge, mais qui a fait éclater la coalition gouvernementale en décembre. Un parti qui se cherche aujourd'hui un petit peu, selon Pascal Deluit. Il est professeur de sciences politiques au Cevipol. Il s'agit du centre d'études de la vie politique de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles.
Bien sûr, du côté néerlandophone, le bilan du gouvernement est abordé très différemment parce que la NVA est partie du gouvernement et d'autre part essaye de remettre à l'avant-plan des thèmes communautaires en essayant de dire que la Belgique fédérale fonctionne mal. Et donc elle est prise dans une tension entre avoir été au gouvernement mais essayer de montrer que la Belgique fédérale fonctionne mal. La logique voudrait qu'elle valorise son bilan, mais c'est très difficile à faire dans une logique où on dit que la Belgique fédérale fonctionne mal. Et par ailleurs, alors là, pour le coup, les thématiques migratoires sont un des éléments bien plus importants de la campagne, parce que c'est un point d'ancrage de la NVA auprès des électeurs, parce que par ailleurs, aux élections provinciales d'octobre 2018, le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, a rebondi électoralement et que lui-même met ces thématiques au cœur de l'agenda. Donc, autant c'est quasi absent de la campagne dans l'espace francophone, c'est en revanche un des thèmes de la campagne dans l'espace néerlandophone.
Des propos recueillis par Pierre Benazet pour France Culture. Et voilà que sonne la fin ce vendredi de notre caravane européenne. Elle aura duré toute la semaine. Vous pouvez réécouter tous les reportages de la rédaction consacrée aux pays fondateurs de l'Union sur franceculture.fr. Suivre également notre série Insta d'Europe sur l'antenne tous les vendredis à 7h24 et puis sur le réseau social de partage de photographies Instagram via le compte France Culture. Dans le journal de midi et demi tout à l'heure, le secrétaire d'État aux affaires européennes et étrangères, Jean-Baptiste Lemoine, sera l'invité d'Antoine Marette. À Paris, Christophe Castaner est attaqué de toutes parts. À droite comme à gauche, on exige du ministre de l'Intérieur des explications après ses propos au soir de la manifestation du 1er mai dans la capitale. Lui a dénoncé une attaque de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Quand quelques heures plus tard, les témoignages et les vidéos de la scène diffusée semblent montrer une intrusion de manifestants sans violence, avec des manifestants en effet qui ont fui une charge des CRS et des tirs de gaz lacrymogène. Une enquête actuellement est en cours. Hier, tous les gardés à vue dans cette affaire ont été libérés et le Premier ministre Édouard Philippe parlait plutôt d'une intrusion plus que d'une attaque de l'hôpital.
Le fait de vouloir entrer dans des salles, qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est idiot et au fond scandaleux. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable.
Alors face à l'exécutif, la classe politique, je vous le disais, s'indigne. Le parti Les Républicains somme le ministre Christophe Castaner de s'expliquer. Certains, comme l'écologiste Yannick Jadot, veulent une commission d'enquête et d'autres encore demandent ouvertement la démission de Christophe Castaner. Écoutez à ce propos Benoît Hamon, tête de liste du mouvement Génération pour les Européennes.
Le président de la République devrait prendre la décision et la seule qui s'impose, c'est d'émettre de ses responsabilités, de ses fonctions, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a délibérément construit une histoire qui n'existait pas. Derrière, il y a quand même des gens qui sont mis en cause. L'hôpital public est instrumentalisé. On ne fait pas ça dans une démocratie. On peut pas parler aujourd'hui, où le gouvernement ne peut pas faire la guerre aux fake news et produire des fake news. C'est pas possible. Il arrive à un moment où il y a des lignes jaunes qui sont franchies. Le débat public, il peut être parfois virulent, dur, mais là, il y a la construction par un ministre de l'Intérieur de la République d'un mensonge et d'un mensonge avec un objectif politique, disqualifier globalement un mouvement social.
Et pour répondre à ces attaques, l'entourage de Christophe Castaner est cité dans les colonnes du Parisien ce matin. Le ministre, explique-t-on, s'est exprimé après avoir rencontré un personnel encore sous le coup de l'émotion. C'est un système qui permet à une collectivité d'ouvrir une partie de son budget à des projets conçus par les administrés de cette collectivité. Il s'agit d'un budget participatif. Chaque citoyen a le pouvoir de proposer des idées qui sont ensuite soumises au vote des habitants. Est-ce une vraie avancée depuis 2014 ou un gadget trompe-l'œil? Ilan Malka s'est penché sur ce système pour France Culture dans le cadre du grand reportage. Il sera diffusé à partir de ce soir, 17h, sur notre antenne. Et nous entendrons par exemple Éric Piolle, maire de Grenoble. Il a mis en place un budget participatif depuis 2014, lui, et il défend cette idée pour plusieurs raisons.
Ça dit aux élus, ben voilà, vous ne pouvez pas tout, vous ne savez pas tout, donc l'initiative des habitantes et des habitants est importante. Ça permet d'avoir aussi une singularité dans la ville, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où petit à petit c'est aseptisé et toutes les villes se ressemblent. Donc là, en partant des habitantes et des habitants, eh ben de fait on retrouve de la singularité, une originalité, une culture finalement. Donc il y a un engouement. L'année dernière, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues porter leur projet, débattre, croiser. Et puis on retrouve des jeunes qui portent des projets, des sans-abri qui portent des projets. C'est-à-dire le projet qui a gagné l'année dernière, c'est un lieu d'ouverture et d'échange qui a été conçu et porté par des gens en situation de grande précarité.
Qu'est-ce qui explique ce succès, justement, à votre avis, du budget participatif par rapport aux autres systèmes de démocratie participative qui ont l'air peut-être moins efficaces parfois, en tout cas, je parle au niveau de la France.
Je sais pas si c'est moins efficace. Là, dans les budgets participatifs, c'est concret, et donc s'il peut y avoir au début un peu de frivolité, en fait, année après année, on voit que les projets sortent pour de vrai.
Éric Piolle, rencontré par Ilan Malka pour le grand reportage qui sera diffusé ce soir à partir de 17h sur France Culture, des rencontres en longueur. Et ce reportage est réalisé grâce à Annie Bro. Il sera suivi d'un débat autour de Mathieu Laurent. Dans l'actualité internationale, Madrid refuse de remettre Leopoldo López aux autorités vénézuéliennes qui réclament son arrestation. Leopoldo López est un opposant vénézuélien qui s'est réfugié mardi à l'ambassade d'Espagne à Caracas lors de manifestations. Il avait échappé à sa résidence surveillée et il était apparu aux côtés du chef de file de l'opposition dans le pays, Juan Guaido. Le président Nicolas Maduro l'accuse d'avoir personnellement dirigé une tentative de coup d'État cette semaine. Portrait de cet opposant avec Benjamin Delisle.
Jusqu'à sa libération mardi dernier, Leopoldo López était le prisonnier politique le plus célèbre du Venezuela. Opposant de longue date au gouvernement chaviste, il avait été arrêté en 2014 pour avoir encouragé les manifestations contre le président Nicolas Maduro qui avait fait des dizaines de morts. Ce personnage charismatique et controversé, critiqué par les uns, adoré par les autres, est soupçonné d'avoir joué un rôle important ces dernières semaines dans l'ombre de Juan Guaido dont il est l'un des mentors. Lors d'un point presse depuis l'ambassade d'Espagne où il s'est réfugié, il a affirmé avoir discuté avec de nombreux militaires prêts à rejoindre l'opposition.
Pendant plus de 3 semaines, j'ai organisé des réunions chez moi où j'étais en résidence surveillée. J'ai rencontré des commandants, j'ai rencontré des généraux avec qui nous nous sommes engagés pour que le peuple et l'armée, ensemble, nous arrivions à faire cesser l'usurpation. Et je peux vous dire que ce qui a commencé le 30 avril est un processus irréversible.
Pourtant, on ne sait toujours pas combien de militaires ont réellement rejoint l'opposition ce jour-là. Dans le même temps, Nicolas Maduro a voulu montrer qu'il gardait son contrôle sur l'armée. Dans un discours en présence du haut commandement militaire, il a appelé tous les soldats vénézuéliens à, je cite, « combattre les putschistes ».
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Au Soudan, des centaines de milliers de manifestants se sont encore réunis hier soir à Khartoum, la capitale. Un rassemblement devant le ministère de la Défense à l'appel d'une coalition d'organisations d'opposition. Coalition qui réclame la mise en place d'un gouvernement de transition civile. Les négociations avec les militaires au pouvoir coincent toujours, notamment sur le choix de la personnalité qui va diriger cette administration. Partons maintenant en Libye, où un mois après le début de leur offensive sur Tripoli, les forces du maréchal Khalifa Haftar butent toujours sur les combattants fidèles au gouvernement d'Union nationale, un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Hier, plusieurs dizaines de députés ont boycotté les travaux du Parlement qui siège habituellement à Benghazi, à l'est du pays. Ils protestent contre l'offensive. Et c'est donc à Tripoli qu'ils ont tenu leur première réunion. Notre envoyé spécial en Libye, Omar Ouaman, y était.
C'est l'hymne national de la Libye, entonné par une fanfare militaire qui a ouvert cette session parlementaire dans la capitale, convoitée par le général Khalifa Haftar, dont les troupes s'enlisent aux portes de la ville, le député Ayman Saïd Fenasser. Il ne s'attendait pas à une telle résistance, il a été lui-même surpris. C'est quelqu'un qui veut tout pour lui, c'est quelqu'un qui n'a aucune limite. Il est prêt à aller encore plus loin. S'il parvient à prendre le pouvoir, le pays sera totalement détruit. Une analyse que partage Aïcha Salabi, députée de la ville de Zawiya. Si cette guerre continue, elle va tout dévaster. C'est la haine et la division qui vont prospérer. Dans les rues de Tripoli, la peur est palpable, mais de nombreux habitants refusent de choisir entre le général Haftar et les milices qui contrôlent la capitale. Choukri, un ancien guide touristique. Haftar ou les milices, c'est la même chose pour moi. Haftar, s'il gagne, il deviendra un nouveau dictateur comme Kadhafi. Si les milices l'emportent, elles seront encore plus fortes et continueront de voler notre argent. C'est le choix entre deux diables. Dans les deux cas, je suis perdant. Usés par un chaos sans fin, les habitants s'attendent désormais au pire.
Omar Ouaman depuis Tripoli pour France Culture. Le temps de ce vendredi en France, pour ce vendredi donc qui débute, il sera marqué le temps par la pluie et la fraîcheur sur une grande partie du pays. Des averses vont traverser la France des Pyrénées jusqu'à la frontière franco-belge. Comptez ce matin 10 degrés à Besançon, 12 à Lille, Nantes et Bordeaux, 14 degrés à Lyon, 17 degrés à Nice. Il fait, Florian, ce matin 13 degrés à Paris, un tout petit peu moins chez nous à Bruxelles, 8 degrés. Mais nous aurons une journée équivalente avec un peu de pluie et de fraîcheur également.